Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Karen El-Kaïm et je suis ravie de vous accueillir, ravie surtout aussi d'accueillir Yves Ravet qui nous fait le bonheur d'être là à Brive avec nous et que je vais vous présenter en quelques mots. Yves Ravet voit le jour en 1953 à Besançon. Il a fait des études d'instituteur, il est devenu professeur de français en lettres et arts plastiques au collège Stendhal. Il s'est imposé comme dramaturge en faisant entrer dans le répertoire de la comédie française certaines de ses pièces ou au théâtre du Rond-Point, où il a notamment présenté « Dieu est un steward de bonne composition », un titre déjà extraordinaire en soi. Depuis son premier roman, « La table des singes », il a publié un grand nombre de livres, dont « Alerte »,« Prise au piège », »,« Bambi Bar », »,« Le drap », qui ressort aux éditions du Poche et qui a eu le prix Marcel Aimé, « Un notaire peu ordinaire, sans état d'âme », Adultère, et aujourd'hui nous allons aborder ensemble Taormine, ce titre très mystérieux et presque une formule magique aux éditions de Minuit, où il nous entraîne en voyage en Sicile, car quoi de plus précieux que des vacances au soleil pour ce couple que nous découvrons, un couple en crise, Melville et Louisa. Or, rien ne va se passer comme prévu pour eux. Un accident va leur faire affronter leur lâcheté et celle de nos sociétés. Bonjour Yves Ravet.
Bonsoir.
Alors j'aimerais d'abord qu'on aborde votre amour de l'écriture et de la littérature. D'où vous est venue cette passion de la lecture et pourquoi elle continue à vous nourrir aujourd'hui?
Alors bonsoir, très touché que vous soyez présent, voilà. Je suis très heureux d'être venu ici, voilà, comme vous le dites si bien. Je ne sais pas si c'est le terme adéquat de parler d'amour de l'écriture, parce que parfois l'écriture ce serait plutôt une pratique quotidienne qui est liée aussi à, bien entendu, à la construction d'une œuvre de fiction. Et je ne démarre pas l'écriture d'un roman en déclarant que c'est une relation, enfin d'amour par exemple, c'est plutôt quelque chose d'intérieur qui permet d'extérioriser les choses et éventuellement de construire une intrigue comme cela est ma fonction. Mais oui.
Non, allez-y.
Mais d'où cela est venu, je ne peux pas le dire. Je crois que c'est le besoin ou l'envie de reconstruire le monde. Au départ, on imagine qu'on va pouvoir le reconstruire tout en se le représentant. Et la fonction de l'écriture, et si on en est capable de la littérature, c'est effectivement de pratiquer cette construction symbolique, c'est-à-dire avec des mots sur une feuille de papier qui sont censés transporter les personnes qui lisent, les lectrices, les lecteurs, dans le monde qu'on a fabriqué, dans le monde qu'on a fabriqué.
Alors, cette écriture, elle est venue dès l'adolescence. Vous êtes mis à coucher des choses sur le papier, comme vous le dites. Est-ce que, dès lors, l'écriture est devenue un véritable prolongement de votre être?
En résumé,
peut-être le micro un peu. Ouais.
En résumé, oui, certainement, on peut dire une chose pareille. Mais c'est difficile, on s'en aperçoit quand on a terminé un roman, quand on est face à un bilan de plusieurs œuvres, on peut, avec un certain recul, considérer que ça a été motivé par son propre soi, quoi, par soi-même. Mais que ce soit le prolongement, c'est aussi... une idée qui n'est pas si simple. Si je prends Taormine, quand j'ai commencé à écrire Taormine, je n'avais qu'un souci, et réellement c'était de transposer ce que j'avais ressenti un jour lorsque j'y étais allé en voyage, et j'avais envie de raconter de nouveau cette histoire. mais je l'ai pour dire que, en effet, ça peut être aussi un prolongement. Ça veut dire que c'était pour moi un exercice de mémoire. Et puis, si je vais un peu plus loin, un tout petit peu plus loin, Taormine, c'est aussi un exercice de style. C'est-à-dire que je me suis dit, on part en vacances en Sicile, on prend l'avion, on établit un programme, on atterrit, on loue une voiture, on passe le premier rond-point après l'aéroport de Fontana Rossa et on part directement à l'hôtel de Taormine. Et ce qui s'est produit, c'est que je n'avais encore pas convoqué les deux personnages essentiels, c'est-à-dire un couple, Louisa et Melville. Je ne les avais pas encore convoqués. Et déjà, si vous voulez, ce qui me venait à l'esprit, c'était le fait de reconstituer des images vécues. Et je n'avais pas trop l'intention de partir sur ce qu'on appelle communément une intrigue quand on construit un roman, une histoire. Et c'est venu après avoir approfondi ce premier contact de mon personnage principal féminin, qui s'appelle Louisa, qui est l'héroïne, si on veut, et qui souhaite, descendant de l'avion et prenant la direction de l'hôtel, faire un détour par la plage, de telle sorte qu'elle puisse se baigner avec et entrer en contact de manière pas religieuse, mais très concentrée. C'est-à-dire visiter le pays, le toucher. Et j'ai trouvé que c'était une idée qu'elle avait qui correspond bien à celle qu'on ressent quand on part dans un pays étranger et qu'on a des marques différentes, etc. Voilà.
Alors avant qu'on revienne vers cette image-là qui est effectivement centrale dans le livre, moi j'aimerais comprendre comment vous construisez vos images, parce que vous enseignez aussi les arts plastiques. Est-ce que ça influence votre regard, est-ce votre façon de croquer des décors, des lieux, parce que là, vous l'avez compris, ils nous emportent ailleurs. Est-ce que le fait d'être justement très impliqué dans la peinture, dans l'art, ça vous permet aussi de littéralement les dessiner à travers les mots?
Ben c'est comme une forme, je trouve très intéressant cette approche, mais c'est comme un croisement de plusieurs langages. En fait, vous écrivez donc avec des mots et avec un vocabulaire, etc. Et puis, en même temps, vous viennent des images. Alors, ces images, elles sont souvent en rapport, puisque ce sont des images avec les arts plastiques, certes, comme vous le dites, mais il faut pouvoir leur laisser la disponibilité et l'offrir à la personne qui veut, les offrir une forme de spectacle, si vous voulez, qui aurait la forme d'un écran de cinéma ou d'un écran de télévision, d'offrir cette possibilité à la lectrice et au lecteur. Maintenant, c'est selon la façon dont les choses se disposent, c'est-à-dire que dans la construction de ce roman, j'ai pratiqué, comme je l'ai pratiqué dans mes romans antérieurs, en mettant en place, non pas un système, mais cette idée que cette histoire, ce n'est pas moi qui vais la raconter, moi je l'écris, et je vais laisser le soin au narrateur, c'est-à-dire on est maintenant dans l'histoire du couple, donc de l'héroïne dont j'ai parlé et de son mari. Et son mari devient le narrateur et c'est lui qui raconte ce qu'il voit. Et comme il raconte ce qu'il voit et que ce qu'il voit et ce qu'il raconte part en destination des personnes qui lisent, donc de la lectrice et du lecteur, il est censé construire des images qui contiennent une description. C'est pourquoi, de manière directe, il est amené à dire, par exemple, nous marchons sur la plage et Louisa est à la recherche de l'eau, de la mer. Au loin se profile, les reliefs de la ville la plus proche. etc. Et donc, il permet, à mon sens, cela permet au lecteur de se fabriquer lui-même de son côté une image. Si le sable est qualifié de certaines mouillées, de telles couleurs, etc., il n'empêche que chacun peut se fabriquer l'image. Et c'est plus, c'est davantage sur les images qui sont proposées que les choses se jouent que sur ce qui se dit. Pourtant, combien est important ce qu'il dit. Le narrateur, il marche sur la plage, il suit son épouse, Louisa, et en même temps lui reviennent toutes ces histoires qui sont le passé du couple. Et je me rends compte, en écrivant cela, que des choses sont en train de se construire, voilà.
Vous parlez du fait de que la parole est importante aussi. Et justement, vous écrivez dans ce livre que la vie est plus simple quand on s'explique. Or, pourquoi est-ce que vous composez un royaume qui est celui des silences, des non-dits et des secrets?
C'est-à-dire que je fais une mise en situation et je me rends compte, après quelques pages d'écriture, si vous voulez, que ce couple dont je parle est un couple qui est en Sicile, en définitive, pour reconstruire le couple. Leurs dernières séances de rencontres ont été difficiles. Comme le dit très justement Melville, qui est le narrateur, il dit « Comme tous les couples, nous rencontrons parfois, nous traversons parfois des zones de turbulence ». Et voilà un terme, par exemple, qui peut être suffisamment évocatoire, c'est-à-dire montrer en quoi ils ont besoin de réparer quelque chose. Et c'est là, à cet endroit, que la parole devient importante. Alors lui-même prête la parole à Louisa, mais pas tant que ça, et c'est surtout lui qui raconte et qui explique, par exemple, qu'ils ont des déboires, que lui-même... n'a pas obligatoirement des goûts de fidélité, par exemple, de choses comme ça. Il parle de son beau-père et progressivement, je ressens ceci, que je suis en train de construire, alors que j'avais dit précédemment que je voulais simplement raconter une histoire de vacances, je rentre par ces petites notes qui apparaissent dans le discours de Melville, j'entre dans la construction d'une histoire... qui est vécu par un couple. Voilà.
Une histoire vécue par un couple, et comme vous dites, ça donne lieu à un véritable jeu où il y a une psychologie permanente qui est mise en place, parce qu'en même temps, ils ont beaucoup de choses à se dire parce qu'ils veulent réparer ce couple. En même temps, ils n'y arrivent pas vraiment. Ils font littéralement des détours, et pas qu'avec la voiture, mais aussi avec leurs émotions. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces jeux d'ombre, dans leur part d'ombre et dans ces jeux psychologique que vous mettez en avant?
Ce qui m'intéresse, c'est une sorte de, non pas de vérité du couple, mais d'approfondissement éventuel, de possibilité d'évoquer leur situation. C'est-à-dire que progressivement, je me rends compte que de cette simple histoire que je démarre comme ça, par quelques annotations, par quelques remarques sur leur passé, c'est un couple très trouble qui a besoin de se réparer, et je commence à pénétrer dans la construction de l'intrigue et dans le roman. Et au cours de leur péripétie, de cette première approche du pays, de la Sicile, voici qu'arrive un accident avec leur voiture de location. Et Melville, qui raconte l'histoire toujours, franchit une sorte d'étape qui est un changement, qui constitue et qui devient un changement de direction de leur parcours, de leur parcours. Et je poursuis cette façon. Je sens que il y a une réaction que Melville est en train de mettre en avant. Et c'est à partir de là que le roman va bifurquer et que je vais accélérer un petit peu, voilà.
Alors la Sicile, qui est le décor et presque un personnage à part entière de ce livre, est un pays magnifique, comme vous l'écrivez, Je ne sais pas si certains d'entre vous y ont été, mais on peut y percevoir effectivement la mer, les paysages magnifiques, les volcans. Mais pourquoi est-ce qu'ils réservent aussi, de mauvaises surprises, comme vous l'écrivez ?
Alors, les mauvaises surprises, c'est cet accident qu'ils rencontrent. Passons rapidement dessus. La voiture heurte dans un chemin de terre peu carrossable. Quelque chose. Ce quelque chose est susceptible d'être quelqu'un. Et la décision du conducteur, alors qu'elle n'était absolument pas prévue et pas du tout, il n'y a aucune prémonition de sa part, le voici qui décide de poursuivre sa route, alors que, le dit-il et l'explique-t-il clairement plus tard, lorsque votre voiture heurte quelque chose, n'importe quel conducteur normalement constitué s'arrête. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre sa portière, il descend et il va voir ce qui s'est produit, au cas où. Et ne serait-ce aussi que pour constater d'éventuels problèmes sur sa propre voiture. Et la question ici, elle est que Melville décide de ne pas s'arrêter. Voilà, de ne pas s'arrêter. Et donc je passe à une phase différente qui est celle des conséquences de ce simple geste, alors que Louisa souhaitait au départ que justement les choses s'arrêtent. Louisa, elle, considère qu'il faudrait, comment dire, trouver une solution, voilà.
Alors avant d'aller plus loin vers cette piste-là où vous nous menez, vous voyez bien, on essaye de jongler parce que certains d'entre vous ne l'ont pas lu, donc on ne veut pas tout vous révéler, évidemment. J'aimerais qu'on revienne à ce décor sicilien puisqu'ils traversent également, ils vont visiter des vestiges de l'Antiquité grecque. Qu'est-ce que ces vestiges disent aussi de notre civilisation, la civilisation ancienne, et celle dont nous avons hérité?
Ça peut être un résumé rapide, si vous voulez. Il faut que je revienne, moi, toujours pour être un peu explicite, sur la construction, c'est-à-dire sur ce qui leur arrive. À partir du moment où Melville décide de ne pas s'arrêter, et ça de manière totalement inconsidérée, parce qu'il considère, lui, que il est censé pouvoir continuer, et il a en priorité, si vous voulez, cette histoire que ce sont ses vacances, et que ces vacances sont tellement importantes. D'abord, il y a l'hôtel qui les attend, il y a eu un investissement, et puis il y a la relation avec Louisa qu'il voudrait reconstruire, et donc tout ceci devient primordial par rapport au geste. Et ça, il va rester fixe sur ce plan là Après, que cela se produise en Sicile implique que je vais, non pas aménager, mais ce que je voudrais expliquer là, pour l'instant, je ne suis pas encore trop en mesure de raconter l'histoire comme ça, de but en blanc, parce que d'abord, on l'a peut-être déjà lu, ou bien on va peut-être la dire, mais ce que je peux dire, c'est que lorsque on écrit dans un cadre donné, par exemple ici, eh bien, la visite de la Sicile, c'est-à-dire sur le mode touristique et un pays comme la Sicile, on peut être imbibé progressivement au cours de l'écriture d'un flot d'images, puisque vous en parliez, et que ces images vont constituer, si vous voulez, une sorte de situation vécue dans un lieu qui comprend une histoire, si vous voulez, voilà. Et donc le propos ici, c'est que lorsque vous écrivez, vous êtes influencé ou vous provoquez des images multiples, et ces images multiples se raccordent toutes à l'idée qu'on peut se faire de la Sicile, ou du moins à son histoire. Et c'est vrai que on peut ici vous évoquer un champ archéologique, mais c'est un élément parmi d'autres. Ce qui m'intéresse à ce moment-là, si vous voulez, plutôt, c'est que je vais traduire le comportement de Melville qui est dans son dans la suite de son accident dont il a le déni, et je vais travailler avec une sorte de filtre, c'est-à-dire que lui reviennent les risques qu'il a pu encourir en niant cet accident, et cela provoque une sorte de culpabilité, voilà, chez lui.
Alors, il y a un autre déni dans ce livre, parce que pour les habitués des romans d'Yves Ravet, vous savez que c'est un peu comme un millefeuille, il y a plein de couches au fil des pages. La Sicile, c'est aussi un lieu de migrants, un lieu de clandestins. Pourquoi est-ce qu'on est dans le déni par rapport à eux dans ce livre? Pourquoi est-ce qu'on refuse de les voir?
C'est-à-dire que le couple est confronté à l'histoire. Comment je peux vous expliquer? Je peux vous dire que, par exemple, j'ai choisi comme cadre la Sicile parce que c'est un lieu où effectivement je me suis rendu, donc j'en avais un minimum d'expérience sur la fabrication des images, on va dire, et de l'histoire, mais aussi ce ne sont pas n'importe quelles images qui vous viennent à l'esprit. Et si par exemple j'avais choisi en Italie un pays comme la Lombardie ou la Toscane, j'aurais certainement pas produit le même récit. Je ne sais même pas s'il y aurait eu ce problème de migrants, par exemple, qui se pose. Mais moi, là, maintenant, je suis en train de dire qu'il y a un problème de migrants, mais je n'ai pas raconté. On a bien compris que lors de l'accident, il y a confrontation avec un enfant de migrant, mais que le narrateur choisit de ne pas s'arrêter, et moi, auteur, je choisis de ne pas le révéler. C'est-à-dire que c'est au cours du périple, mais ça fait partie du roman, quoi, si vous voulez. Et le problème, c'est que quand je parle de filtre, ça veut dire qu'au départ, je suis centré sur une idée du couple, sur la description, sur ça m'intéresse, la façon dont ils entretiennent leurs relations, comment ils ont construit leurs vacances et quelles sont leurs attitudes. Mais je dis que je dois maintenant, j'ai affaire je dois lire cette grille des personnages en abordant un filtre qui est celui, donc, je vous l'ai dit, de la culpabilité. Et la difficulté, c'est que plus le couple avance dans son histoire, plus la question se pose au moment où ils se rendent compte que effectivement, enfin la preuve est là, ou du moins l'information est là, par hasard dans un journal acheté dans une station-service, on parle d'un enfant mort, voilà.
Et qu'est-ce que ça dit aussi de nos sociétés qui ne veulent pas voir certaines choses ou certains êtres?
Ben moi, de la société, si vous voulez, la légère difficulté que j'aurais là pour vous répondre, c'est que je n'ai pas le souci de mettre en avant une sorte de réaction morale ou de description de la société, parce que ce n'est pas l'objet du roman. L'objet du roman, quand je l'écris, c'est simplement ce qui me vient à l'esprit, et je suis d'événement en événement ces situations. Par exemple, lorsqu'ils découvrent qu'effectivement ils peuvent s'être rendus coupables de quelque chose qui peut les mettre, ils deviennent pratiquement des criminels dans ce cas-là, lorsqu'il y a ceci, je n'ai plus qu'à utiliser leur échange pour exprimer cette difficulté qu'ils rencontrent. Mais de ma part, à aucun moment je me dis, en démarrant le texte, et quand j'ai démarré le roman, je n'avais aucunement l'idée de ce qui se produirait, et je n'avais pas l'intention de faire une description de la Sicile, même si ce sont des images, comme j'ai dit, mais quelles sont les images que la Sicile peut transporter comme ça? Eh bien, par exemple, je peux penser à des films. Si vous pensez au Guépard de Visconti, par exemple, vous avez une image. Voilà un des éléments qui permettent de nourrir le texte, même si ces éléments, je ne les nomme pas. Alors, il y a un endroit en Sicile où le couple a décidé de se rendre. C'est un champ de ruines. Qui s'appelle la Vallée des Temples, et c'est Louisa qui est le personnage qui m'intéresse davantage au moment où on aborde cette situation. C'est Louisa qui, elle, va se promener au milieu des ruines et dans une ville qui s'appelle Agrigente ou Agrigente, qui traduit, alors voilà l'histoire, la présence grecque dont subsistent les traces, mais en même temps cela est le produit de leur attitude. Nous sommes à ce moment-là à un moment où Louisa est en train de dire qu'elle souhaite faire une chose, c'est se dénoncer à la police. Et là on revient à ce système de la loi qui a été transgressé, de la punition ou du moins de la culpabilité. Et cette histoire de culpabilité la transporte à tel point qu'elle, comme si Louisa avait éprouvé le besoin de se purifier, de se mettre en rapport avec l'architecture subsistante de la Grèce antique. C'est-à-dire qu'elle est devant les fûts de colonnes, devant les entablements qui sont en ruine et qui expriment la pensée du peuple grec, ou du moins, par exemple, des philosophes. Et si on parle de Grèce et d'Antiquité, et si on parle aussi de tragédie, on comprend facilement que les deux... Enfin, j'arrive à ressentir, moi, le fait en écrivant que les deux personnages sont pris dans cet enchaînement de faits qui les rend coupables.
Qui les rend coupables, qui fait aussi qu'il y a une tension nerveuse tout au long du livre. D'un point de vue romanesque, qu'est-ce qui vous intéresse dans les obstacles et dans la façon où ils vont nous confronter à nous-mêmes ou à notre propre chute?
Quand je dis qu'il y a ici une sorte de tragédie, ça veut dire que chaque fois que la tragédie, c'est quand vous êtes sur un point où vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et si vous revenez en arrière, c'est à vos dépens. Et je reste dans cette conviction que je ne dois pas chercher justement le romanesque, c'est-à-dire que je dois simplement décrire les faits, ce qui pourrait caractériser cette façon qu'ils ont d'aller d'un endroit à l'autre dans ce paysage touristique, mais marqué par des événements. Voilà.
Et le thème de la fuite est aussi très présent, comme vous le disiez, puisqu'il y a la fuite avec la voiture, mais il y a aussi certaines choses qu'on essaye de fuir dans l'existence. Et justement, ce roman nous confronte peut-être à cette question-là. Jusqu'où est-ce qu'on peut fuir ou se mentir à soi-même?
Ça, c'est une question de psychologie et que moi, je ne me suis pas posée. C'est-à-dire que je ne suis pas certain que leur problème, je ne peux pas l'exprimer de cette façon. C'est-à-dire que leur problème, il est qu'ils ont commis ceci, qui est cet accident. Ils ne l'ont pas reconnu. Et donc, cela entraîne une série d'événements. Et ces événements font la construction, sont la substance même du texte du roman. Voilà. Et je pense même que ils discutent entre eux sur cette situation, et leur souci va être de se tirer de cette situation. Mais effectivement, je vais toujours l'écrire par rapport à leur réaction à eux, et non pas par rapport à ce que moi, moralement, je pourrait inventer, de telle sorte qu'il soit ou coupable ou non coupable, puisqu'on rentre ici dans la question de la qui est liée à la tragédie, c'est-à-dire est-ce que on est coupable ou pas des actes qu'on a commis, et comment comment cela se produit à l'intérieur d'une tragédie. Mais moi, au départ, je n'ai pas dit « je souhaite écrire une tragédie ». Je n'avais pas ça du tout en tête. C'est simplement pour moi un écho qui apparaît serait presque, plutôt que de chercher des solutions intermédiaires, que je lise un extrait ou quelque chose comme ça. Ça serait peut-être plus démonstratif, finalement. Parce que si moi, j'ai un discours, et c'est un peu, non pas intellectuel, mais un peu construit comme ça. Et donc, ce que je crois, c'est que le contact avec le texte, il est quand on le lit, quoi. Alors, je sais pas.
Allez-y, vous pouvez lire une page si vous le souhaitez.
Vous ne l'aviez pas prévu, mais...
Non, mais allez-y, c'est très bien d'improviser, comme ça vous l'entendez. Comme ça, on part en Sicile avec vous, parce qu'il fait tellement froid que ça ne nous fera pas de mal. Merci pour la petite touche de chauffage.
Autorisez-moi une seconde.
Je vous en prie.
Oui, je prends un extrait si ça. Enfin, si...
Mais mettez bien le micro
devant.
C'est
pour moi le seul moyen de. C'est-à-dire que. Il faut se confronter, voilà. Donc, nos deux.
Vous voulez que je vous tienne le micro ?
Non, ça va aller. Merci. Les deux personnages sont en route pour ce site archéologique Agrigente. Je vais lire. Une heure plus tard, nous avons stoppé sur le bas-côté, devant la pancarte Agrigente, 20 km, et je suis sorti encore une fois de voiture. Louisa m'a rejoint, s'est approchée. Elle souhaitait très fort que tout cela n'ait jamais existé. Pas ici, Melville, pas maintenant. J'ai demandé de quoi elle parlait exactement. Elle a répondu, la mort de cet enfant. Rien d'autre, Louisa. Elle a contemplé la route qui filait en ligne droite. J'ai sorti mon smartphone, puis Louisa en photo sous la pancarte. Puis pris Louisa en photo sous la pancarte. J'ai dit, désolé que ce gamin, si c'est lui, soit venu se loger sous mes roues. Moi aussi, je le regrette très fort. Fais-moi un beau sourire, s'il te plaît. Pour toute réponse, Louisa a dit, on devrait se rendre à la police. Je la voyais venir. Mais à un point... Pour être franc, je redoutais cela depuis le début, se rendre à la police. J'ai pris de nouvelles photos sans cesser de parler. Mais cette fois, j'ai changé de ton, lui ai fait part de ma très forte réserve. Louisa, je suis sidéré que tu puisses envisager pareille démarche. Je vais finir par croire que tu deviens folle ou alors dois-je considérer que c'est le soleil qui te tape sur le système si tu te rends à la police? Ce sera pour lever le voile sur un crime que tu n'as pas commis. Ça m'est égal, a-t-elle répondu. Prenant mes marques sur les inégalités du terrain, pour assurer mon équilibre et cadrer l'image, chemise battant au vent parmi les pierres éparses sur le terre-plein, je me découvrais dans l'obligation de répondre encore et encore à ma femme, et j'étais en train de me dire « ça ne finira donc jamais ». Alors, j'ai repris, bien décidé à étouffer cette nouvelle initiative. Se rendre à la police, ce serait tellement plus simple, Louisa. Mais je vais te dire une chose en principe, tu t'en remets aux autorités quand tu as commis une faute. Mais quand tu n'en as pas commis, du moins quand personne ne peut certifier t'avoir vu commettre cette faute. Comment tu procèdes? Tu tends tes poignets au policier et tu lui dis « Je ne suis pas certaine de mon fait, mais allez-y, brigadier, mettez-moi en prison. C'est ce que tu veux? Qu'on te conduise en cellule? Écoute-moi bien, Louisa. Nous, on n'a rien à voir avec cet accident et je te pose la question en supposant que tu fasses cette démarche Pourrait-on en déduire que nous étions présents sur les lieux ? C'est impossible à démontrer. Des preuves, il faut des preuves. Et toi, non seulement tu leur en fournis, mais tu les inventes. Voilà, je prends un extrait de ce qui peut peut-être éventuellement donner une idée. Quand je dis qu'il y a un entretien à l'intérieur du couple entre elle et lui, et que ça joue sur la conviction qu'on risque de... ça va peut-être nous coûter très cher, la situation devient de plus en plus tendue, voilà.
La situation est tendue, il y a aussi cette question du choix qu'on peut faire dans la vie, que ce soit pour un chemin qu'on prenne à droite ou à gauche, ça va nous mener ailleurs. Là, que ce soit avoué à la police ou pas, ça va nous mener ailleurs. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces moments de vérité qu'on retrouve aussi dans le drap, par exemple, où là, vous parliez de la mort d'un proche, à savoir le père?
La question, elle est que... ici, tout est dans ce que je viens de raconter, tout est verbal. C'est-à-dire que c'est un échange au cours du trajet sur leur devenir. Mais parfois, ce n'est même pas par les paroles que l'échange se fait. L'échange peut se faire. Excusez-moi. J'ai un rhume, voilà.
Vous voulez un peu d'eau ?
Mais qu'un rhume, oui, ça va aller. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, Louisa déclare qu'elle ressent un certain malaise, par exemple, une difficulté, elle a mal à l'estomac, par exemple. Eh bien, elle n'a pas besoin d'exprimer pendant une vingtaine de pages le sentiment de son malaise, voilà. Et donc c'est simplement par des petits gestes comme ça que j'arrive à pénétrer un minimum le personnage.
Allez-y, prenez un peu d'eau. Et dans cette confrontation à la mort du père, parce que le drap ressort là en poche, c'est aussi un autre de vos livres phares. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce rapport à l'autre qui nous revoit forcément à notre rapport à nous-mêmes?
Alors, il y a une chose que... Donc, citer les événements qui font avancer le récit, qui sont très concrets, par exemple, l'accident lui-même, la découverte de l'enfant, enfin ces choses-là, ça c'est quelque chose de très périlleux parce que on peut ressentir le fait que si on nous raconte l'histoire avant de l'avoir lue, ça peut être éventuellement difficile ensuite. Et pourtant. Je devrais être amené maintenant à raconter l'histoire en tant que telle, de telle sorte que je puisse éventuellement entrer dans le cœur de l'histoire, c'est-à-dire dans ce qui m'aura touché à titre personnel. Et donc, j'ai parlé de l'apport de l'histoire de la Sicile, dans la mesure où je parle de quelque chose qui se construit au fur et à mesure de l'écriture. J'ai parlé, par exemple, du discours du cinéma, éventuellement, mais il y a aussi d'autres paramètres à l'intérieur de l'histoire de la Sicile. Et j'ai ressenti très fort que je ne devais pas entrer dans les lieux communs, si vous voulez, c'est-à-dire réduire, au risque de la stigmatiser, réduire le pays à simplement être, par exemple, le pays d'origine de Cosa Nostra, par exemple, voilà. Et donc, malgré tout, ça fait partie des images qui affluent au moment de mon travail, voilà.
Dernière question, est-ce que ce roman peut aussi être perçu comme une métaphore de la vie, puisque durant nos vies entières, on est confronté à des bifurcations, à des détours, à des imprévus, à des accidents?
Vous dites une confrontation?
Non, une métaphore de la vie.
Tout est métaphore de la vie, c'est-à-dire mon roman comme tout. Comme tous les autres, si je pouvais en parler un peu plus naturellement, je dirais qu'effectivement c'est un regard passager que je pose sur une histoire qui a démarré de manière tout à fait innocente, je vais dire. C'est-à-dire qu'on descend d'un avion et on va pratiquer des séances de tourisme, on va découvrir un pays, et la situation fait que les deux personnages vont se retrouver eux-mêmes et à leurs dépens fuyards. Donc, étant poursuivis par la police italienne. Mais pour dire ça, il aurait fallu que j'explique aussi comment ils sont parvenus à ce moment-là et comment j'ai transformé ces deux touristes en fuyards. C'est-à-dire comment j'ai traité, par exemple, une métamorphose, mais plutôt une mue. C'est-à-dire qu'ils changent de statut au fur et à mesure de l'avancée du récit, par exemple. Et à ce moment-là, je ne me pose pas des questions de genre, quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est une métaphore de ceci ou de cela? Je vis à l'intérieur si j'arrive à cerner le personnage, je vis à l'intérieur de celui-ci, féminin ou masculin, et j'active l'histoire de jour en jour, comme je crois ça, pouvoir le faire, voilà. C'est plutôt ça.
Eh bien, merci beaucoup pour cette conclusion, pour aussi ce passage que vous avez lu. Donc, Taormine, c'est aux éditions de Minuit. Si vous souhaitez prolonger cette conversation, poser à votre tour des questions à Yves Ravet, n'hésitez pas, il sera sur son stand et il sera là, j'imagine, tout au long de la foire.
On aurait déjà dû pouvoir le faire s'il y avait des questions, mais en milieu, pour que j'évite de me répéter, déjà.
Non, c'est en tête à tête. Ils viendront vous poser des questions, vous parler du livre, des impressions. Parce que malheureusement, on va devoir quitter les lieux.
Non, je n'ai pas dit de recommencer, mais on aurait dû peut-être prendre une demi-heure pour échanger, voilà.
Mais souvent, les gens sont très timides en public. Donc moi, je vous propose, enfin, il est là.
Plus
vous
tard.
Faites comme vous voulez. Et donc, en tout cas, merci beaucoup à vous, Yves Ravet. Merci à vous pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci. Bon, c'est très gentil.